Allez-y.
Non, une seconde, je compte.
Alors, 3, 4.
嘴满不能说话。
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
Bonjour.
Bonjour, ni hao.
Bonjour, William Shanta Chen.
Shanta Chen, c'est exactement cela.
Nous l'entendons déjà, là c'est un dialogue entre canards.
Tout à fait.
Mais nous allons faire un dialogue culturel entre les cuisines chinoises et françaises, puisque c'est le titre de votre livre, Canard laqué, canard au sang. Qu'est-ce qui rapproche et oppose le canard dans la culture chinoise et dans la culture française?
Le canard, dans les deux cultures, c'est un mets de choix, c'est un mets de fête. C'est vraiment une viande qu'on ne mange pas nécessairement dans le quotidien. C'est vraiment une viande très prestigieuse. Et par rapport au titre de mon livre, Canard laqué, canard au sang, ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ce titre, parce qu'effectivement, c'est deux recettes emblématiques de la cuisine chinoise et française. Tout le monde rêve de déguster un canard laqué de Pékin, qu'on appelle Peijing Haoya. Et tout le monde rêve aussi de déguster un canard au sang, qui est appelé aussi Canton de la Tour d'Argent. Et pour moi, effectivement, ces deux recettes méritent qu'on prenne l'avion pour vraiment les déguster sur place. Et ce qui est intéressant dans ces deux recettes, c'est vraiment leur destin parallèle grandiose dans ce dialogue culturel que je parle dans mon livre, tant effectivement dans les restaurants où ils sont servis, tant dans les techniques de préparation de service, mais aussi en termes de marketing. Et là, on se rend compte que les Chinois ont quand même un peu copié sur les Français. Pourquoi ? Par exemple, depuis 1890, Frédéric Delair, qui a introduit cette recette à la Tour d'Argent, remet un numéro de dégustation, un numéro de canard.
Ainsi, oui, ce sont des canards numérotés.
Tout à fait, ce sont des canards numérotés.
Des canards, alors, on les appelle nantais, mais ce sont des canards de Chaland.
Ce sont des canards de Chaland. Et à Pékin, dans les années 1980, ils ont commencé à afficher un panneau qui affichait en temps réel le nombre de canards consommés. Et c'est depuis 2014 qu'ils ont remis aussi un certificat avec le numéro de canard.
Les restaurateurs disent canton, mais il s'agit de canette. Mais c'est pour éviter de confondre avec les bouteilles de bière, c'est...
Oui, sûrement. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que des deux côtés, par rapport aux deux recettes, il s'agit du côté chinois du canard de Pékin et côté français du canard de Chaland. Et c'est un canard qui fait entre 2 kg et 2,5 kg.
Si vous nous emmenez à Pékin, le canard pékinois, comment l'appelle-t-on ?
Peijing Haoya. Mais l'appellation des Pékinois, ils l'appellent Cui-pi Peijing Haoya. Cui-pi, ça veut dire la peau croustillante. Le canard laqué de Pékin, c'est un canard rôti, où effectivement un travail exceptionnel a été fait par rapport à la croustillance de la chair. Et c'est vraiment la partie qui est la plus prisée dans la dégustation de ce canard.
Préparons ce canard. D'abord, on le trouve où ?
On le trouve où, hein. Donc, le canard, hein, donc ça s'achète dans tous les supermarchés à Pékin, étant donné que c'est la race canard de Pékin. Et une fois lorsqu'on l'a acheté...
Ce sont des canards alors là, d'élevage intensif.
Ce sont des canards d'élevage intensif. Alors, intensifs sont quand même nourris au grain. Hein, donc, parce qu'effectivement, comme en France, il y a le canard qui est élevé en plein air. Après, il y a les canards de batterie. Normalement, le canard laqué de Pékin, hein, donc, doit être un canard élevé au grain et qui a couru en plein air. Et une fois lorsque le canard est préparé et viscéré, effectivement, on le fait sécher d'abord et après on coud hein, donc les ouvertures et après on souffle en dessous dans le canard de manière à le faire gonfler. Et l'action consiste déjà à séparer la peau de la chair pour préfigurer cette croustillance de la chair. Et une fois lorsqu'on a soufflé dans le canard, hein, donc ça gonfle, hein, donc ça gonfle énormément, et le soufflage se fait directement par la bouche. Il n'y a aucun appareil qui permet de remplacer hein, donc l'action de l'homme parce que le fait de le faire manuellement avec la bouche permet de ressentir hein, donc le dosage d'air qu'il faut et les parties là où il faut. Et une fois lorsqu'on a soufflé le canard, effectivement, on le plonge dans de l'eau chaude juste pour le blanchir rapidement. Après, on le fait sécher. Et une fois lorsqu'il est bien séché, on va appliquer le laquage. Le laquage, c'est un mélange d'eau, d'alcool de riz et de malt.
Hein, donc, ce qui donne cette belle couleur rouge.
Tout à fait. Oui. Ce qui donne à la cuisson hein, donc cette belle couleur rouge date. Hein, donc, et cette couleur est très importante. Et le laquage se fait en plusieurs fois. On le laisse sécher, hein, il y a plusieurs couches. Et on le fait rôtir après dans un four ouvert. Le four ouvert, c'est une création sous la dynastie des Ming. Des Qing. Pourquoi ? Parce que avant le canard laqué, hein, donc, existait déjà dans l'Antiquité, mais était rôti dans un four fermé. Et c'est sous la dynastie des Qing, hein, donc, au moment de la vulgarisation de cette recette, que ce canard était rôti en four ouvert, et en plus avec du bois de fruits. Donc sont des pêchés de dattiers, parce que ce bois confère aussi un arôme supplémentaire au canard. Et ce canard est rôti entre 50 et 60 minutes, accroché. Effectivement, une fois cuit, on le laisse reposer une trentaine de minutes, histoire que les sucs réimbibent la chair du canard. Et après, effectivement, il y a le rituel de service en salle. À Pékin, donc je l'appelle le canardier, hein, donc c'est un chef cuisinier qui va avec sa toque, c'est un spectacle. Et effectivement, il vient débiter le canard une centaine de tranches, disposées joliment sur une assiette. Et ces lamelles de canard qui contiennent à la fois la chair et la peau croustillante sont dégustées dans une crêpe à base de blé.
Avec un peu de cive, de petits...
Voilà, donc effectivement, il y a un peu de cive émincée, du concombre et une sauce qu'on appelle tianmian jiang. C'est une sauce sucrée à base d'haricots, hein, donc très sucrée. Effectivement, il y a un art d'envelopper cette crêpe à base de canard laqué. Alors, pour les primo-consommateurs, hein, donc, les restaurateurs vous montrent toujours comment envelopper, hein, donc, ces lamelles de canard croustillantes autour de cette crêpe et comment la déguster.
Et alors, le canard est préparé devant le consommateur.
Tout à fait.
Ou il est préparé en coulisses.
Alors, à Pékin, donc, la découpe du canard se fait devant la tablée, devant le client. Donc, c'est le chef qui vient. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mise en scène, ce n'est pas du tout dans la tradition chinoise. Parce que vous avez raison, hein, donc, dans la cuisine chinoise, tout se fait à l'abri des regards. Pour quelle raison ? Parce que la cuisine, hein, c'est un peu un lieu de danger où on manipule des couteaux, hein, donc où c'est le lieu de transformation de la nature vers la culture, où on aime bien faire les choses à l'abri pour présenter devant les yeux les palais de convives, hein, donc un mets prêt à être dégusté. À Pékin, je pense que cette mise en scène, hein, donc, est un emprunt au service en salle à la française, parce qu'ils veulent rendre aussi, hein, donc, ce canard laqué comme un spectacle. Dans la vraie tradition de la consommation du canard laqué, ce canard laqué se déguste en trois services. Le premier service, on ne sert que la peau. Effectivement, cette peau est toujours accompagnée de cette fameuse crêpe, avec ses cives, ses morceaux de concombre, sa sauce sucrée. Et après, la chair, elle est sautée avec des légumes. Et la carcasse, on en fait un bouillon. Donc, vous voyez, c'est en trois services.
William Shantan Chuen, je vous propose de voyager avec le palmipède et la famille Legrand, avec Christiane Legrand, accompagnée par son frère Michel.
Un canard qui pataugeait dans une mare, coin, coin, se dit un jour, moi j'en ai marre, coin, coin, d'être toujours seul dans mon coin, sans copain. Quelle histoire ! Il eut soudain l'idée bizarre, coin, 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 d'aller voler une guitare, coin, coin, le vieux grenier du fermier qui dormait. Les crapauds dans la mare donnaient de la voix, chantaient la samba. Le canard était fou de joie. Et sous la lune qui veillait cette nuit-là, c'est la fortune qui venait rôder par là. Aux accents de la fiesta, le fermier se réveille, jurant d'exploiter sa coin.
William Shantan Chuen, je vois que vous êtes en train de danser sur...
La danse des canards, oui.
Une forme de danse des canards. Donc, dans votre dialogue culturel entre les cuisines chinoises et françaises, aux éditions de L'Épure, vous nous parlez donc du canard laqué, mais vous nous parlez aussi d'autres canards, comme le canard au sang.
Le canard au sang, tout à fait, hein, qui est une recette emblématique de Restaurant La Tour d'Argent. Et là, effectivement, il y a une technicité aussi dans la préparation. le canard, il est rôti au four à 130 degrés pendant 30 minutes. Il est bien sûr rosé. Et après, le spectacle se passe en salle. Et pour ceux qui ont la chance et le bonheur d'avoir dégusté ce canard dans ce restaurant...
Et les moyens, disons-le.
Et les moyens, et les moyens. Hein, donc, il y a une scène où le canardier fait son petit spectacle. Et il commence par lever les deux filets du canard. Et effectivement, contrairement à Pékin où on conserve la peau, là, effectivement, la peau est enlevée. Et les deux magrets de canard sont encore rosés. Il lève aussi la cuisse et... La cuisse retourne en cuisine pour le deuxième service, alors que les deux magrets, il les prépare sur la scène. Et il commence par préparer la sauce. Il va récupérer, il va presser la carcasse de canard pour récupérer tout le sang qu'il va rajouter dans une sauce à base de fond de canard, de madère, de cognac. Et ça donne une sauce très chocolatée, très nappante. Et il finit de faire cuire les magrets de canard dans cette sauce. Et ce canard est servi avec des pommes soufflées. Donc, c'est la recette traditionnelle.
Alors, William Shantachen, ce qu'on ne dit pas, c'est que les deux canards n'ont pas été tués de la même façon.
Non, effectivement, le canard français l'est étouffé. On évite surtout de le saigner pour garder un peu le sang par rapport à la carcasse. Et un soin qui est apporté par rapport à ce canard lors de la livraison à Paris, ils sont emmaillotés. Et effectivement, il y a aussi un travail par rapport à la peau, il y a un soin qui est apporté. Et ce qui est important par rapport à la saveur de la recette, c'est effectivement l'adjonction de ce sang de canard qu'on a pressé avec une presse à canard, donc à partir de la carcasse.
La presse à canard, ça ressemble un petit peu à un instrument de torture, même si la bête est déjà morte.
Disons que effectivement, il s'agit de la carcasse de canard et ça se rapproche beaucoup, donc des presses à raisin quelque part, pour exprimer le plus de jus, donc le plus de sang de canard possible.
Comparer ces deux approches, est-ce que ça vient des racines mythologiques de la culture du canard dans les deux pays, puisque le canard est présent dans toutes les représentations égyptiennes anciennes vers moins de 2500 ans. Mais en Chine, c'est encore plus ancien.
D'après les textes, sur les textes écrits, le canard, la consommation de canard remonte à plus de 4000 ans. Et ça faisait partie déjà des volailles qu'on consommait à la cour.
Et là, on parle pas de canard sauvage, mais on parle de canard d'élevage.
On parle de canard d'élevage. Le canard sauvage a un aura supplémentaire, parce que c'est un canard qui est élevé en liberté. Par exemple, les empereurs Qing, lors de leur chasse, ils chassent aussi les canards sauvages, qui faisaient partie des gibiers. Et comme en France, la noblesse chassait beaucoup. Le fait de capturer une viande sauvage dans la nature, effectivement, il y a une force tellurique solaire qu'il n'y a pas
dans le canard d'élevage.
Les animaux d'élevage. Parce que le fait de consommer des animaux sauvages, aussi bien côté français que chinois, ça permet aussi d'intégrer, d'ingérer cette énergie qu'il y a aussi dans l'animal.
Et alors, il y a des connotations symboliques aussi en Chine, dans le canard, dans la...
En Chine, le symbole le plus connu des canards, ce sont les canards mandarins, Yuan Yen. Ce sont des canards, mâles et femelles, qui nagent toujours par paire. Et ils sont vraiment le symbole de la félicité conjugale et de la fidélité. Ils sont représentés dans les peintures, et on va jusqu'à les représenter aussi, les broder sur les draps des nouveaux mariés. D'ailleurs, au niveau de Feng Shui, pour l'organisation harmonieuse d'une maison, on recommande aussi d'installer une peinture de canard mandarin qui regarde dans la même direction dans la chambre à coucher. Et ces canards sont toujours représentés aussi dans les peintures. On les appelle aussi l'ami des fleurs. Il est vrai que le canard, on en trouve beaucoup en Chine. Donc, une des raisons de leur présence dans la gastronomie s'explique aussi par leur aide apportée dans la rizière. Ils ont toujours été un peu les collaborateurs des hommes dans la culture du riz, parce que le canard barbote dans les rizières, mange les mauvaises herbes, et en bougeant ses pattes, donc ça lui permet aussi d'éviter aux mauvaises herbes de pousser, et leur fiente permet aussi de fertiliser aussi les rizières. Tsai France Culture, Tsui Ma, Punang Shohua. Alain Kruger, Sien Chang.
William Chan Tachen, vous avez reconnu là ce canard au plumage rougeâtre?
Je vois un paysage de canard mandarin dans le lac de Palais d'Été en train de barboter joyeusement au milieu des barques.
Et alors si je vous dis que qu'un canard peut parler à sa canne, vous savez ce qu'il lui dit, le canard qui...
Coin, coin.
Un canard dit à sa canne, ricane, ricane. Un canard dit à sa canne, ricane, la canard.
William Chan Tachen, il y a un hebdomadaire célèbre qui fête ses vrais 100 ans au mois de juillet 2016, qui est le Canard Enchaîné. Le Canard, c'était aussi un bobard de presse. Qu'est-ce que c'est d'autre et qu'est-ce que c'est en Chine en particulier?
Lorsque j'entends le titre de journal Canard Enchaîné, en Chine, je ne sais pas si ça parle au chinois, le canard enchaîné. Hein, mais par rapport à moi, hein, ça me fait penser à une technique de préparation du canard, hein, qui est le bridage, brider un canard. Hein, vous voyez, canard enchaîné, je bride la volaille. En France, quand on cuit des volailles, et spécialement le canard, on aime bien effectivement le brider. Ça veut dire que on serre avec de la ficelle, hein, donc la cuisse, les ailes, de manière à garder une forme parfaite du canard. Et cette technique de bridage n'existe pas en Chine. Quand on fait cuire le canard, en l'occurrence le canard rôti, on l'accroche avec un crochet en S. On l'accroche, c'est-à-dire qu'on accroche avec main dans le cou, qui permet au cuisinier de suspendre le canard et d'effectuer toutes les opérations. Donc à la fois de séchage, de laquage, et même par exemple dans le canard rôti à la mode cantonaise dans le sud, on utilise le même crochet pour retirer les canards. Donc il n'y a pas du tout cette notion, hein, donc de brider, de technique de brider la volaille en Chine.
Alors qu'est-ce qui différencie le canard cantonais du canard pékinois?
La différence, c'est dans la mise en goût. Comme j'ai décrit tout à l'heure, hein, donc le canard laqué, effectivement, une fois soufflé, on l'enduit avec le laquage, alors que le canard cantonais, on le fait mariner. On le fait mariner avec des épices et plus particulièrement avec l'anis étoilé. Et on va même jusqu'à farcir le coffre. Et effectivement, on va aussi enduire la peau avec un mélange de sauce de soja et de sirop qui permet d'avoir aussi cette peau croustillante. Et au moment de le servir, on le sert aussi avec une sauce. La plupart du temps, on le sert avec une sauce aux prunes qu'on appelle suan mei jiang. Et cette sauce aux prunes, légèrement acidulée, permet de compenser un peu la sensation de gras du canard. Parce que ce qui est vraiment délicieux dans le canard, c'est effectivement la croustillance de la peau, ce côté gras, gourmand, hein, avec une chair qui est très fine, très moelleuse.
Dans la culture chinoise, on mange tout dans le canard.
On mange tout dans le canard. Le canard, c'est un peu l'équivalent du cochon français. On ne jette rien.
Enfin, en Chine, on mange tout dans le cochon aussi.
En Chine, on mange tout aussi dans le cochon. Hein, donc, mais je veux dire que le canard en France, hein, donc, globalement, dans les livres de recettes, hein, donc, il y a des parties qui sont négligées. Ça ne veut pas dire que certains n'en mangent pas. Les parties les plus prisées d'une volaille, en l'occurrence d'un canard pour les Chinois, c'est d'abord la tête, le cou, les ailes, les pattes. Ce n'est pas nécessairement la chair. Et ceci s'explique par des critères gastronomiques différents. Les Chinois aiment bien tout ce qui est texture. Et la texture est un critère gastronomique important. On aime bien les parties cartilagineuses des mets, on aime bien les parties gélatineuses. Et le fait de sous-sauter, hein, donc le cou, il y a aussi plus de saveur. Et d'ailleurs, au niveau des recettes, hein, par exemple, on a une recette de langue de canard aux cerises. Au niveau des pâtes, vous connaissez les pâtes de phénix, qui sont des pâtes de poulet. Eh bien, au niveau des pâtes de canard, on a l'équivalent. Et l'avantage des pâtes de canard, c'est que ça donne une surface plus importante en texture. Et ces pâtes de canard sont servies avec une sauce moutardée. On récupère aussi le sang de canard, hein, donc le sang de canard qu'on fait coaguler. Je me rappelle que lorsque mes tantes dans ma famille, quand on achète des canards, la volaille, on les engraisse pendant une dizaine de jours avant de les tuer et de les consommer. Et on prend toujours soin de récupérer le sang. Et sur une petite assiette, on met toujours un peu de sel, un peu d'eau, un peu de vinaigre, on récupère le sang et ça donne une coagulation. Et les Chinois appellent ce boudin, entre guillemets, de sang de canard ou de volaille, hong tofu, c'est-à-dire le fromage de soja rouge. Parce que la texture est aussi moelleuse, soyeuse que le tofu, et on s'en sert pour utiliser en garniture dans les soupes ou dans les plats sautés. Cette passion pour les bas morceaux, pour la tête, pour les abats, c'est vraiment une passion nationale chinoise. Et les abats ont le même statut, sinon parfois un statut supérieur que les morceaux de viande. Et un Chinois, un cuisinier, il apportera toujours autant de soin à cuisiner les abats que les morceaux de chair.
Pour rester à la campagne, je vous propose d'écouter Brigitte Bellet chanter Emmanuel Chabrier, Les Villanelles des Petits Canards. Il y a beaucoup d'expressions autour du canard dans la culture chinoise.
Alors, j'en connais essentiellement deux. Le premier, c'est Nan. Il y a Nan, ça veut dire garçon. Ya, ça veut dire canard. Et en chinois, ça veut dire soit prostituée, soit homosexuelle.
Il y a une confusion des genres particulière.
Voilà. Il y a une autre expression par rapport au canard, qui est ya tout simplement. Donc ça peut vous dire aussi fiancé.
Et c'est en même temps le symbole de la fidélité.
Et c'est en même temps le symbole de la fidélité. Sauf que il faut faire une distinction entre ya tout court, c'est-à-dire canard, et yuan yuan, canard mandarin. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
William Shantachen, si l'on pense au canard, on pense aussi au foie, à son foie, à son foie gras. Est-ce qu'il y a une culture du foie gras en Chine ?
La culture du foie gras, dans le sens français, non. Mais quand on engraisse les canards, quand on les élève, on travaille de manière indirectement le foie. Effectivement, le foie, on en consomme en Chine, et surtout à Pékin. Il y a une recette de canard qui est poché dans une marinade salée aux épices et ça se rapproche effectivement du foie gras au torchon français et la texture moelleuse s'y ressemble est très proche. Et j'avais dégusté à ce que j'appelle ce foie gras chinois pour la première fois en prélude d'un banquet et je voyais arriver de fines tranches de foie émincées et dès la première bouchée en fermant les yeux, j'ai dit, c'est exactement comme le foie gras français.
Et vous l'avez dit comment, ça ?
Yen shui, ya kan.
William Shantachen, est-ce que vous connaissez Abed Ezrié ?
Non, je ne connais pas.
Parce que lui aussi chante le canard.
Parfait.
Alors, dans les autres régions en Chine ou même dans d'autres contrées comme la nôtre, quelles sont les variantes autour du canard ?
les variantes autour du canard. Hein. Donc effectivement, il y a le canard à l'orange en France, qui est une recette très célèbre. Ce canard à l'orange, tel qu'on la connaît aujourd'hui, elle est un peu codifiée hein, par René Lasserre dans son restaurant, parce qu'à Paris, quand on veut manger ce canard à l'orange, effectivement, on va chez Lasserre. Ce qui est important dans cette recette de canard à l'orange, c'est vraiment cette sauce aigre-douce, ce mélange de sucre et salé.
Et là, on n'est pas très loin de la culture chinoise.
Et dans cette recette de canard à l'orange, en termes techniques, il faut faire une bigarade. Une bigarade, c'est un caramel qu'on coupe avec un acide de manière à rajouter après le fond de sauce. Et cette sauce bigarade vient du terme bigaradé, qui est un orange amer. Et voilà, donc c'est cette sauce hein, donc, qui a été aussi codifiée hein, donc, il y a très longtemps, par Taïwan, je crois.
Canard à l'orange, canard au sang, il y a...
Il y a aussi le canard au navet, il y a le canard aux olives, il y a aussi le canard confit, qu'on connaît beaucoup en France. Hein, donc d'ailleurs, c'est très délicieux. Et ce qui est bon dans le canard confit, c'est aussi la graisse de canard, parce que la graisse de canard a la réputation d'être une très bonne graisse. Et quand on fait sauter des pommes de terre avec une pointe d'ail, c'est très divin. Et d'ailleurs, cette graisse de canard est très utilisée aussi dans la cuisine chinoise. Ça amène une saveur supplémentaire. D'ailleurs, lorsque vous faites cuire des blancs de poulet dans la graisse de canard, eh bien, vos blancs de poulet ont la saveur du canard.
Et le canard à Picius, celui d'Alain Saint-Drins ?
Je l'ai lu dans la presse. Hein, donc, effectivement, il s'est inspiré d'une recette ancienne. Et le canard après rôtissage, hein, donc, est servi avec une croûte croustillante à base d'épices. Mais je ne l'ai jamais dégusté.
Pas encore.
Pas encore.
Si l'on revient à votre livre « Dialogue culturel entre les cuisines chinoises et françaises », William Chan Ta-Chuen, vous livrez beaucoup de recettes. Est-ce qu'il y en a une qui vous ressemble plus que les autres ?
Je pense que je reste attaché au canard rôti à la cantonaise, parce que c'est la recette de mon enfance, tout simplement. Et j'ai tous les membres de la famille, nous sommes un peu dispersés, que ce soit à New York, à Canton, à Johannesburg, on aime bien se retrouver autour de ce plat. Et c'est quelque part aussi une recette familiale. Et cette recette de sauce aux prunes, on fait aussi cette sauce aux prunes maison. Ce sont des recettes qu'on transmet aussi de génération en génération. Donc le canard rôti à la cantonaise avec une sauce aux prunes.
William Chan Ta-Chuen, vous êtes né à Madagascar,
oui.
Donc à la croisée de tous ces mondes,
oui.
Dans une île d'ailleurs où il y a une population chinoise importante.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a un plat chinois qui caractérise Madagascar ?
Peut-être que la recette emblématique chinoise de Madagascar, c'est le tsok. C'est le tsok, c'est la bouillie de riz. C'est une bouillie de riz qu'on mange en Chine au petit déjeuner. Et à Madagascar, quand on va au restaurant chinois, le tsok, c'est effectivement un des plats les plus prisés. Et comme le riz est l'aliment de base des Malgaches, donc du coup, ils ont aussi copié cette recette, d'autant plus que cette recette est très proche d'une de leurs recettes qu'on appelle le varsusu, qui est un riz qui est cuit avec beaucoup d'eau et qui se rapproche aussi du risotto.
Merci beaucoup William Chan Ta-Chuen. Je recommande ce dialogue culturel entre les cuisines chinoises et françaises, et qui est un livre qui est en plus nourri de beaucoup de recettes françaises et de recettes chinoises, puisque votre culture de sinologue est aussi une culture d'homme qui connaît la cuisine de l'intérieur.
Qui connaît la cuisine de l'intérieur, qui la déguste, qui la pratique et qui essaie effectivement de la diffuser, de partager.
Attention, vous, hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Competissa, la prise de son est d'Olivier Dupré et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission éternellement et dans le monde entier. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster pendant un an et dans quelques instants écouter le journal. Je tiens à préciser qu'aucun canard n'a été malmené, torturé ou cuit pendant l'émission, mais végétarien ou amateur de volaille, je vous donne rendez-vous très vite.